Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Actu DevOps. Nous sommes aujourd'hui en février 2021 et nous ne sommes pas encore confinés. Alors, comme tu auras pu le remarquer, il y a un petit ralentissement dans les podcasts, j'ai dû prendre une grosse mission, ce qui fait que je ne peux plus produire autant de podcasts que je l'espère. Donc, on va passer sur un rythme de un podcast tous les 15 jours. Donc, on aura quand même les grosses émissions tous les 15 jours. Donc, Actu DevOps, la première quinzaine, et Radio DevOps, la dernière quinzaine du mois. Voilà pour les petites annonces, et pour être sûr finalement que tu ne rates aucun épisode, tu peux t'abonner à la chaîne du podcast sur l'application que tu veux ou sur la chaîne YouTube si tu veux voir la vidéo de ce podcast pour être notifié quand les épisodes sortent, puisque si je décide de sortir des épisodes solo, bah, tu seras informé comme ça. Alors ce soir, puisqu'on enregistre le soir, avec moi j'ai René. Bonsoir René.
Bonsoir Christophe.
J'ai aussi Damir avec moi.
Bonsoir et bonjour à ceux qui nous écoutent en journée pour le coup.
Oui, surtout que c'est publié le matin. Et enfin, Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Et on va pas traîner, on va commencer à parler d'une chose que j'ai abordée déjà dans une petite trouvaille du vendredi, mais on va l'approfondir un petit peu, puisque Damir avait envie de troller un petit peu. Alors je laisse la parole à Damir.
Bah du coup, on va parler de formation, et pas de n'importe quelle formation, de formation cloud computing et des formations qui sont offertes et, par une entreprise qui a totalement un but non lucratif qui s'appelle AWS. Donc pour le coup, on a déjà un peu parlé d'une activité similaire l'année dernière sur Azure qui offrait des formations, donc Microsoft qui offrait des formations sur le cloud. Là, c'est AWS qui a quand même annoncé un chiffre assez conséquent qui est de former 29 millions de personnes au cloud computing. Donc à savoir qu'à mon avis, quand on dit cloud computing, ça veut surtout dire cloud computing avec AWS. Donc on voit quand même qu'une action, c'est pas une action anodine, c'est une action de grande ampleur, qui est quand même quelques mois après celle de Microsoft, donc on pourrait se dire qu'il y a quand même un petit répondant entre les deux, et qui nous fait toujours revenir à cette éternelle question qui est la formation, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un réel enjeu, et que les fournisseurs de services donc qui nous fournissent ces plateformes fournissent aussi cette partie formation, et se chamaillent un peu dessus pour être ceux qui font toujours le plus de formation, pour s'assurer qu'il y ait des personnes qui soient capables d'opérer leur cloud et surtout qui soient formées dessus. Donc, c'est pas anodin, on en a déjà parlé, mais globalement, vous doutez bien, quand une entreprise fait le choix d'aller sur un cloud, il y a une chose qui stratégiquement est aussi intéressante pour elle, c'est tout simplement de savoir si elle aura toujours des gens à recruter pour faire tourner sa plateforme. Et aujourd'hui, le recrutement en informatique, je pense que ça va être encore le cas quelques temps, c'est quelque chose qui est compliqué, surtout le recrutement de personnes qui ont de l'expertise dans un domaine, à plus fortiori sur le cloud. Donc pour le coup, en faisant ça, en fait, ces grosses plateformes s'assurent en fait, assurent pour leurs clients qu'ils auront toujours un vivier de compétences et de talents qui seront disponibles pour gérer leurs infrastructures. Donc moi, je trouvais ça assez intéressant de revenir dessus, parce que déjà, on avait déjà parlé, mais effectivement, de voir qu'il y a un peu du répondant et qu'il y a un peu une course à qui va offrir le plus de formations. Là, je ne me rappelle plus du nombre exact des précédents, mais là, on parle quand même de, du coup, 29 millions de personnes, donc ça fait beaucoup de personnes, ça fait beaucoup plus de personnes qu'on a de vaccinées par mois en France, et on a quand même ça qui sera réparti sur 200 pays, ce qui fait quand même un grand nombre de pays, là aussi, c'est pas un truc localisé sur une région, c'est vraiment dans un grand nombre de pays, donc on voit bien une stratégie globale qui est une stratégie de formation qui est assez intéressante, et on voit qu'on se dirige aujourd'hui là-dessus, c'est de fournir ces choses-là gratuitement parce que c'est devenu une importance capitale. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, bah, nous, on en est au niveau des autres clouds, donc notamment les clouds français, qui pour l'instant n'ont pas encore trop eu d'action côté formation, on va dire. Pour l'instant, on a eu pas mal d'actions des autres côtés, mais niveau formation, on attend encore un peu de voir des choses, peut-être des certifications et des choses comme ça sortir. Mais pour le coup, ça peut nous donner un peu, ça nous donne une... un point qui est assez intéressant de voir, de la manière dont ça glisse, entre guillemets, on voit qu'il y a une pénurie dans le marché des compétences, donc du coup, ils agissent directement dessus. Donc, c'est assez intéressant quand même, et ça confirme la tendance qu'il y a déjà eu avec Microsoft et Google il y a quelques années, qui avait aussi annoncé ça, mais sur des choses beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus localisées. Pour le coup, pas d'approche aussi globale que là, AWS qui a fait ça, je pense, avec leur budget, ils ont pu se permettre, du coup, de faire une approche extrêmement globale. Mais toi, René, du coup, cette actualité, t'en penses quoi ?
Waouh. Alors, en fait, on avait déjà parlé de ça une fois précédemment. C'est la stratégie un petit peu habituelle, quoi. Alors, ça a des bons côtés, je pense, pour les gens de pouvoir se former comme ça. Surtout pour si c'est, je sais pas à qui c'est accessible. Est-ce que tu sais, toi, un petit peu si c'est accessible, quel que soit le niveau, comment ça se passe ?
Alors, apparemment, il y aura plusieurs types de formations, et c'est là, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais de ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, je mettrai l'article bien sûr en description, c'est qu'il y aura des formations destinées vraiment aux débutants, donc des personnes qui ont peu ou pas de compétences au cloud, et aux personnes un peu plus initiées. Donc pour le coup, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a ces deux approches, donc qu'il y ait des gens, on va dire plus pour l'administration, des choses assez classiques, et des gens plus sur de l'expertise. Donc pour le coup, c'est une approche qui est... c'est pour ça que je voulais parler de cette actualité, parce que je trouve qu'elle est plus globale que l'approche de Microsoft, qui était un peu plus localisée, un peu plus réduite. Là, on parle vraiment d'une approche à très grande échelle, avec plusieurs niveaux de formation, et qui a, à mon avis, une grosse partie de leur stratégie sur cette année.
Donc voilà, pour finir, je pense oui, c'est intéressant. Ça permet par exemple à des gens, je pense, de se reconvertir ou de changer de voie des fois. Donc pour ça, c'est le bon côté. Après, malheureusement, le mauvais côté, c'est que ça formate peut-être un peu trop les gens sur une solution, celle d'AWS. Et là, pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une ouverture à d'autres solutions. Ça va être, à mon avis, très centré sur leur solution. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu le revers de la médaille.
Ah moi j'ai pas grand chose à rajouter en plus, mais c'est vrai que je pense que tous ces acteurs là ils savent que c'est via la formation, via l'espèce d'inception que tu laisses sur les gens que tu vas gagner des parts de marché à l'avenir. Donc c'est une stratégie classique. Là, ce qui est flippant, c'est les chiffres, quoi. Le nombre de formations prévues, l'ampleur, le large spectre qui est abordé, ça fait que ils y vont avec le bazooka, et clairement, c'est très fort. Effectivement, on avait déjà parlé de sujets comme ça précédemment, mais je crois que ça avait même pas un dixième de l'ampleur d'Amazon, hein. Donc là, c'est, enfin, moi je trouve ça assez ouf, et comme le disait René, tant mieux pour les gens qui peuvent en profiter pour s'être formés, et espérons qu'il y ait la curiosité aussi d'aller voir les autres solutions.
Pour le coup, je me permets de rebondir. J'ai retrouvé un article qui parlait de l'actualité qu'on avait parlé l'année dernière. Effectivement, c'était beaucoup plus localisé chez Microsoft. Et c'était en partenariat avec des acteurs locaux comme Rocom, Claranet, etc., CGI ou d'autres. Donc du coup, c'était un peu plus localisé avec des entreprises partenaires, qui est un peu plus, on va dire, traditionnellement la méthode de fonctionnement de Microsoft, hein, qui est de s'allier avec des entreprises, d'établir des partenariats, etc. C'est très Microsoft comme approche. Donc pour le coup, c'était, ils avaient annoncé ça donc de manière un peu plus localisée. D'ailleurs, c'était surtout en France dont ça parlait de ça l'année dernière. Et là, on parle vraiment du coup d'une approche qui est beaucoup plus globale. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, pour montrer qu'il y a une grosse montée en puissance de cette problématique. J'ai trouvé les chiffres du nombre de pays qui sont concernés pour la vraie formation, c'est-à-dire il y a pas mal de formations en ligne, mais la vraie formation sur 12 semaines par AWS, elle va être gérée par AWS dans 12 pays différents sur une durée de 12 semaines par formation. Donc du coup, on parle vraiment d'une échelle qui est incomparable avec Microsoft là-dessus.
Sachant que derrière, c'est tout un business, parce qu'après, tu vas avoir tout le business de, comme tu disais, des certifications, du renouvellement des certifications. Donc, c'est un investissement à la limite pour eux, mais derrière, ils vont rentabiliser assez facilement, je pense.
De mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter. Que ce que vous avez dit. Justement, quand j'en parlais en vidéo sur la trouvaille du vendredi, je faisais un appel du pied à nos chers fournisseurs cloud français pour leur dire que ce serait bien qu'ils s'y mettent, en fait, parce que vraiment, s'il y a un manque de compétences, ça ne va pas aider les hébergeurs français à percer. Parce que, outre le fait que, qu'ils soient là, qu'ils soient présents et qu'ils aient un service à la hauteur, il y a aussi le manque de compétences qui va jouer en leur défaveur. J'en ai parlé justement, j'ai eu un rendez-vous avec Scalingo la semaine dernière, je leur en ai parlé de ça et de la formation, ils en ont bien conscience, donc j'espère en tout cas qu'ils vont faire des choses ou qu'ils vont aider à faire des choses. Je ne sais pas encore dans quelle mesure on peut s'y prendre. Et juste, je vais rebondir sur les 12 semaines. Pour le coup, ça me paraît vachement bien, 12 semaines de formation. Ça me paraît assez pour bien former les gens. On est loin de juste 3 jours par-ci, par-là. Et je pense que là, Amazon fait un pas de plus vers l'hégémonie du cloud qu'il a déjà.
Pour le coup, et après, c'est leur objectif, c'est de garder du marché. Donc, s'assurer la pérennité du marché, c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de compétences sur leur domaine. Mais pour le coup, c'est vrai que la formation, après, comme je dis, il y a plusieurs formes qui vont y avoir, des formes en ligne, etc. Mais la formation principale, vraie formation au sens traditionnel du terme, sera effectivement assez longue comparée à certaines formations qu'on a pu voir des fois de une semaine, de deux semaines, qui sont au final plus des introductions. Pour info, la chose intéressante, c'est que je donne cours en université pour les troisième années pour qu'ils découvrent en fait le cloud, notamment AWS. Donc j'ai une grosse partie au final qui est plus des concepts cloud et je parle au final assez peu d'AWS. Au final, tout est généralisable. Mais pour le coup, c'est intéressant de voir que ça met du temps à expliquer quand même les concepts de base, le fonctionnement, et je prends beaucoup de temps là-dessus, parce que je juge qu'à partir du moment où on a compris le fonctionnement et la logique de base, on apprendra très vite le reste. Et en fait, rien que ça, ça prend quasiment une semaine. Donc, quand on voit des formations, une semaine pour se former, on va dire, introduction au cloud, ça, c'est très peu au final.
Ouais, exactement. C'est vraiment court. Et moi aussi, je donne des cours en université, mais je n'aborde pas le cloud. Peut-être que ce sera dans les prochaines années, mais il y a d'autres formateurs pour ça. En tout cas, j'encourage nos chers fournisseurs français à y penser. Et ou à me contacter pour qu'on y pense ensemble, peut-être, parce que moi, ça m'intéresse en tout cas de former plein de gens là-dessus, ou au moins que parmi les compagnons, puisque c'est un grand réseau qu'on est en train de monter, on ait des compétences justement et qu'on puisse se former entre compagnons. Donc, vu qu'on a parlé du A de GAFAM, on va parler du G de GAFAM. Je vais laisser la parole à René qui va nous parler de Google.
Oui. Une initiative de Google qui fait suite un petit peu à la dernière actu qu'on a faite où on a parlé aussi de Rust et en fait ce que Google va sponsoriser en fait un projet pour essayer de, on va dire, rafraîchir ou moderniser un petit peu le serveur Apache et notamment la partie mode SSL. Il se trouve que en Rust il y a une librairie qui s'appelle Russell, donc qui est en fait une implémentation du protocole TLS. Et cette librairie est assez vient de passer un audit et elle est très solide. Le résultat de l'audit, c'est que c'est un petit peu à l'état de l'art en termes de ce qui peut se faire en sécurité. Et donc, une autre particularité de Rust, c'est que ça s'interface très bien avec du C ou du C++. Et donc, c'est un projet qui vise à améliorer la sécurité du serveur web Apache, qui, je pense, est beaucoup utilisé chez Google et chez d'autres fournisseurs. Et voilà, je pensais que c'était une info assez intéressante à partager.
Ouais, je vais commencer. Pour une fois. Moi, je suis plutôt un utilisateur de Nginx, donc du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Tout ce qui peut améliorer Apache, le rendre plus véloce, c'est bien, de quoi qu'il arrive. Donc, tant mieux. Après, moi, c'est vrai que ça ne me touche pas trop, parce que moi, j'évolue plus avec du Nginx, que je trouve plus efficace et plus facile. Enfin, je suis arrivé avec Nginx entre les mains, donc c'est vrai que j'ai très peu touché à Apache. Mais je trouve Apache un peu ancien.
Ça va peut-être leur donner aussi des idées.
Ah, je pense aussi. Ils vont
aussi faire évoluer la base de code.
Apache, en soi, n'est pas un mauvais produit, mais c'est vrai qu'il a souffert un peu d'une image vieillotte qui est dans un peu dans l'inconscient, on va dire, collectif, et qui empêche beaucoup de gens peut-être de l'utiliser aujourd'hui. Donc des projets comme ça pour un peu accélérer les choses, peut-être moderniser aussi, bah, j'espère que ça va donner l'occasion en fait aux personnes de le redécouvrir, parce qu'il fait quand même bien le taf, on peut faire des choses très sympas avec, même si j'utilise très peu aussi, hein. Mais pour le coup, c'est quand même un outil qui est très puissant et qui est toujours intéressant aujourd'hui dans pas mal de cas. Donc pour le coup, non, c'est une initiative qui est cool. Et bon, tant que c'est toujours mis en open source et que c'est partagé, moi, ça me va, entre guillemets.
Ouais, moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que c'est juste cool de voir que des projets comme Apache Server, qui sont des vieux projets, qui ont une étiquette de legacy système, continue à évoluer et dans le bon sens avec ce genre d'initiative. Donc c'est cool, mais après, effectivement, je suis aussi sur Nginx.
Il faudrait qu'on en parle un jour aussi des mods dans l'informatique, parce que des mods et des a priori sur certains logiciels, je pense que ça serait assez intéressant.
Là, tu peux le dire, des préjugés.
Oui, des préjugés. Moi, je ne parle pas encore des gens qui disent que Java est forcément lent ou des choses comme ça.
Mais c'est le cas, en plus Java est forcément lent. Non, je troll un peu.
C'est un gros troll, ça.
Mais en tout cas, quand je faisais du Java, c'était pas ça. Et j'ai abandonné depuis.
Ça c'est beaucoup, beaucoup. J'étais pas un énorme fan de Java, je suis toujours peut-être pas un super fan, mais il faut reconnaître qu'ils ont énormément travaillé sur la JVM. Et ils ont mis des instructions vectorielles pour certains processeurs. Et la performance aujourd'hui de Java, elle est très bonne.
Après, même à l'époque, il y a quelques années, elle n'était pas mauvaise. En fait, c'est juste que ça bouffait beaucoup de base. Mais niveau scaling, ça ne bouffait pas beaucoup en fait, quand tu scales. Tu pouvais scale à des très hauts niveaux sans pour autant bouffer des ressources qui étaient exponentielles. C'était ça qui était intéressant sur ce langage, pour le coup. Mais c'était mal compris, pour le coup.
Après, il y a un effet, souvent, c'est que certains serveurs d'application, des choses comme ça, sont un peu longues à démarrer. Et c'est vrai que ça donne cet effet un peu que c'est lent. Mais après, une fois que ça tourne, ça dépote pas mal, quoi.
Je pense qu'on parlera des technologies et des langages dans le cloud, ce serait intéressant. Pour la prochaine actu, c'est moi qui vais m'y coller, et on avait déjà parlé de Docker, et donc aujourd'hui c'est un nouveau communiqué de Docker qui nous apprend en fait que Docker lègue le projet Docker Distribution à la Cloud Native Computing Foundation. Alors, c'est quoi Docker Distribution? En fait, c'est simplement la version open source et libre du registre de conteneurs qui est en fait au cœur du Docker Hub. C'est aussi une réécriture en Go de l'ancien Docker Registry, puisque au début, il y avait le Docker Registry qui était écrit en Python. Docker Distribution, c'est la réécriture en Go, qui a été pensée en plus pour être vraiment extensible à base de plugins et autres. Et donc, la raison pour laquelle elle a été léguée à la CNCF, c'est ça que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que Docker, qui appartient maintenant à Mirantis, si je ne dis pas de bêtises, Docker a vraiment conscience qu'en fait, la plupart des gestionnaires de registres de conteneurs qui existent et qui sont disponibles actuellement utilisent Docker Distribution ou le Docker Registry. Donc, ils ont constaté qu'il y avait la plupart du temps des forks de ça et qu'il y avait peu de participation au projet finalement original. Donc, ils estiment qu'en léguant Docker Distribution à la CNCF, ça va aider la collaboration entre les équipes, ce qui a été le cas finalement de Kubernetes et ContainerD dès qu'ils ont été mis entre les mains de la CNCF. On a vu une explosion des coopérations. Et donc, le nouveau projet, il est sobrement intitulé Distribution. Et moi, je vous mets le lien du dépôt Git en description, vous pourrez aller voir ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de tout ça, du fait que c'est légué à la CNCF pour améliorer la collaboration, et puis du fait qu'on ait un cœur, finalement, qu'on va pouvoir utiliser, qui va peut-être se standardiser pour les registres de conteneurs.
Moi, je pense que c'est une super initiative de faire ça. Ça fait partie de l'esprit du logiciel libre et open source. Donc, que les gens collaborent sur un moteur et l'améliorent, ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Du coup, la grande question, c'est est-ce que ça appartenait encore à, non, ça appartenait à Mirantis ou est-ce que ça appartenait encore à Docker, du coup, version open source, qui, elle, du coup, n'a pas été revendue. Ça, c'est la grande question. Donc, savoir qui l'a légué, j'ai pas regardé. Après, bah, c'est toujours bien, on va dire, d'avoir une nouvelle chose qui est lancée en open source. Mais pour le coup, ouais, c'est à voir ce que ça va donner au final. Est-ce que ça va produire des choses qui sont intéressantes? Et ça, bah, bon, je peux pas dire dans une boule de cristal pour le dire. Donc, personnellement, je vais un peu attendre de voir comment ça va évoluer. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans la CNCF. Donc, c'est un peu compliqué de tout suivre, on va dire.
Ouais, si ça leur permet de fixer la conversion d'un compte en organisation, je suis pour. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le nombre de threads qui parlent de ça, mais c'est incroyable. C'est un vrai enfer. Et...
On sent les mois de souffrance sur ces threads.
Après, ce qu'il y a, c'est que ça arrive peut-être un peu tard, parce qu'il y a quand même pas mal de... Malheureusement, il y a pas mal de concurrence sur le sujet. Enfin... beaucoup de solutions de conteneurs registrés qui existent et du coup comment après ça va pouvoir se refédérer pour faire avancer ce projet là, je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, on verra.
D'après ce que dit la news, en fait, c'est que le cœur de la plupart des solutions de conteneurs registrés avait comme justement cœur ce projet là ou la version historique. Donc là, la question, c'est plutôt, est-ce qu'il va y avoir un mouvement des autres conteneurs registrés libres pour réintégrer cette partie-là en tant que cœur? Et est-ce qu'il va y avoir une mutualisation des moyens sur ce code-là, ce qui serait pas mal, je pense. Et je sais pas qui a légué, en fait. En tout cas, c'est docker.com qui annonce ça. Donc je ne sais pas si c'est la partie qui a été vendue à Mirantis ou pas. Moi, de mon côté, ça m'interpelle un petit peu parce que quand je vois tout ce qui est légué au projet libre de la part de Docker, j'ai l'impression que ça sent un peu la fin quand même de Docker tout court. Je sais pas quoi en penser vraiment.
Comment ça ?
Eh ben, il y a une partie de Docker qui a été vendue à Mirantis, et puis il y a tout un tas de projets qui sont légués à des fondations ou autres. Donc on sent un petit peu, tu vois, le cadavre qui est dépecé petit à petit.
Docker, ils sont venus, ils sont arrivés à un moment avec, on va dire, la bonne approche au bon moment avec l'explosion du DevOps et tout. Ils ont proposé vraiment une boîte à outils, un ensemble d'outils qui était top à l'époque et qui était innovant, on va pas se le cacher. Et petit à petit, en fait, quand il y a eu le tournant, notamment avec tout ce qui est orchestrateur comme Kubernetes, bah, ils ont juste, en fait, ils se sont fait distancer. Ils n'ont jamais vraiment arrivé à rattraper cette distance. Ils ont essayé de se focaliser un moment sur leur propre orchestrateur, mais il n'a pas pris, en fait. Tout le monde s'est dirigé un peu sur Kubernetes pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Là, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais tout le monde s'est dirigé sur Kubernetes. Eux, bah, derrière, ils ont perdu vraiment tout le marché de l'orchestration qui était important. Donc, au final, c'était aussi un peu leur marché, parce que c'est le marché, finalement, de l'écosystème. Et eux, c'était ce qu'ils ont vendu à la base. Hein. Quand je dis vendu, ce qu'ils ont fait, c'est un écosystème. Donc pour le coup, bah, petit à petit, les gens sont allés sur un écosystème qui était plus Docker-centrique, mais au final Kubernetes-centrique. Et on l'a bien vu ces dernières années. Hein. Kubernetes, aujourd'hui, pour la plupart du temps, ne tourne plus avec un moteur Docker. Il n'utilise plus du tout de Docker. Il va utiliser des moteurs comme Cry.io, comme ContainerD, etc. Donc au final, c'est un... Oui, Docker, je pense que la période Docker, entre guillemets, elle est un peu passée, on va dire, et petit à petit, ça va être mis en open source, ça va devenir un peu... une approche, mais ça risque de disparaître plus ou moins, ou de survivre en tant que projet dans quelque part. Mais pour moi, ils ont apporté quelque chose, une innovation, mais aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas su un peu suivre ce que c'est devenu, et on est passé sur quelque chose qui les dépasse, entre guillemets. Et... cycle de la vie, comme qui dirait, il y aura une nouvelle techno sur Kubernetes, elle va faire parler d'elle, et ensuite, il y aura une nouvelle techno trop bien qui va détruire Kubernetes en disant que c'était nul. Et voilà, c'est le cycle sans fin de l'informatique. Et dans 3 ans, on repartira sur des AS400, quoi.
Non, je voulais juste dire que je comprends le point que souligne Damien, mais moi, j'avais, c'est peut-être un biais, hein, mais j'avais quand même le sentiment qu'en termes Tu vois que ça restait... j'ai le sentiment que ça reste un outil pour dev ou pour faire des choses localement encore très très répandu et majoritairement utilisé. Et donc c'est pour ça que moi, j'avais le sentiment que c'était pas autant au bout du rouleau que ce que tu disais quoi.
Bah, je suis d'accord que ça reste un outil de dev, mais je vois pas comment tu peux rester rentable en faisant juste cette partie dev en réalité, cette partie PC dev. Surtout qu'il y a pas mal d'alternatives qui fonctionnent aussi bien, donc le jour où Docker va vraiment perdre en vitesse, les gens vont se tourner vers d'autres choses. Et personnellement, dans beaucoup d'entreprises que je croise, des gens souvent maintenant font du K3S en local, parce que c'est relativement léger. Et ça te permet d'avoir un écosystème qui correspond plus à ce que tu vas en prod. Là où aujourd'hui, Docker, avec son modèle, généralement, le gros problème de Docker sur le desktop, et ça va être de plus en plus, hein, c'est que quand tu vas produire quelque chose, généralement, ça va être du Docker, voire tu vas faire du Docker Compose quand tu as besoin d'une stack de plusieurs Docker. Mais à un moment, tu vas perdre cette notion de pod et ces notions-là que tu vas avoir besoin en local pour développer ou pour bien être un peu sur la même horde d'idées, entre guillemets, que tes environnements de production et de développement. Donc, petit à petit, les gens passent soit sur du K3S en local, soit ils passent sur du Podman ou autre. Et moi, je vois de plus en plus de K3S installés un peu en local parce que bah, ça marche et c'est pas si lourd en vrai.
De toute façon, Docker, là, je pense qu'ils ont eu du mal effectivement à trouver le business model. Aujourd'hui, ce qui reste, je crois que c'est la partie justement Docker for Mac, Docker for Windows, et puis ben, le hub. Et c'est vrai que ça doit commencer à être un peu difficile, quoi.
Bah, ils ont essayé de monétiser le hub, du coup, avec les limites... Je pense que sur le coup, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui ont payé, mais après, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont payé? Parce que l'annonce était quand même assez brutale pour certaines entreprises, en mode on n'est pas bloqué et dans quelques mois, ben, on va passer sur autre chose. Là est la question aussi, quoi. C'est-à-dire combien de temps, en fait, il y a des gens qui vont payer? Est-ce que ça va leur rapporter assez de cash flow pour se maintenir à flot et potentiellement tenter d'autres choses?
Ce serait intéressant de faire un historique de Docker et une analyse du business model de pourquoi est-ce que ça n'a pas pris. Quelles étaient les erreurs, etc. Et moi, ça me fait penser à une autre entreprise qui s'est montée à peu près à la même période, mais qui, elle, pour le coup, n'a pas trop de problèmes, ce qui est HashiCorp, parce que je pense que le business model n'est pas vraiment identique. Mais ça, on pourra en parler justement quand on parlera du business model du Libra. Et Erwan va nous parler de notre sauveur à tous, Stack Overflow, parce que si Stack Overflow n'était pas là, bah, je pense qu'on aurait des soucis. Et justement, Stack Overflow a eu des problèmes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alors, ça, ils ont publié un article sur leur blog, sur leur blog, qui fait en fait un retour, d'expérience suite à un incident et en fait une intrusion au sens large dans leur système. Et ce qui est intéressant, c'est que ils font un retour d'expérience pour raconter un peu comment ils s'en sont aperçus, ce qu'ils ont fait pour remonter tout ce qui s'est passé et mettre en avant quelques points. Et c'est de ça que je voulais parler. Donc l'incident, il a eu lieu il y a un bout de temps en fait, c'était en mai 2019, mais pour tout un tas de questions légales et probablement aussi de patch de production, ils ont fait ce blog post du coup quasi deux ans plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, mi-mai 2019, bah, les équipes de Stack Overflow sont avertis par des membres de leur communauté qu'un utilisateur sorti de nulle part et tout neuf en termes de création a récupéré des droits hyper avancés de modérateur et de dev sur l'ensemble du réseau Stack Exchange. Donc, sans délai et sans préavis, ils ont suspendu le compte, fin de l'histoire, et voilà, fin de la news. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, vite compris une escalade de permission, et donc que l'attaquant avait eu accès à des choses beaucoup trop avancées pour être juste forgé ou quoi que ce soit. Il comprenait et il connaissait ce qui se passait en gros. Dans le moteur de Stack Overflow et de son réseau. Et donc, ils ont commencé à faire une petite enquête et c'est ça qui est assez rigolo. C'est que le blog décrit vraiment l'intégralité de la timeline. Vous avez un espèce de résumé jour après jour de comment ils ont fait pour remonter la piste. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que l'article est assez long et décrit assez bien les différents points. Mais ce qui est rigolo, c'est évidemment qu'ils mettent en avant tout de suite les logs, parce que c'est à partir de ces derniers qu'ils vont réussir à remonter un peu tout ce qui s'est passé. Alors, ils communiquent un petit peu en mode ninja sur le fait que, a priori, l'attaquant aurait utilisé la même IP à chaque fois, et c'est ce qui a permis de retracer la timeline. Mais ce qui est pas mal, c'est le fait que comme ils ont des logs sur lesquels ils sont hyper confiants, donc des logs horodatés où chaque action est identifiée par un user, l'IP, l'action, etc. et le change, et donc en ayant récupéré l'intégralité de ces logs, et ben ils ont retracé tout ce que les gars ont fait, et en fait ils sont aperçus que si au début l'attaquant ils sondaient juste tout un tas de choses qui sont exposées publiquement, mais derrière des autantes ou quoi, à un moment, l'attaquant a réussi à récupérer un zip qui contenait le code source de Stack Overflow. Et en fait, quand ils ont vu l'espèce de curl qui a récupéré ce truc-là, ils sont aperçus qu'en fait... Ce fameux lien était exposé dans une doc publique de Stack Overflow. Alors, je vous passe tous les détails à partir du moment où le gars a eu ça, il a essayé de faire pas mal de social engineering auprès du support pour essayer d'avoir accès à le fameux « Ah, j'ai besoin de ton password, est-ce que tu peux m'aider ?» etc. Donc, ils expliquent vraiment toutes les étapes que le gars a suivies jusqu'à la fameuse escalade de droits, puisque en gros dans l'archive qu'il a récupéré du code source, il y avait des informations qui permettaient à l'attaquant de comprendre où se trouvaient les environnements de test qui étaient publiquement exposés, qui était derrière une espèce d'obfuscation assez triviale. Du coup, à partir de là, il a compris, il a pu se forger des accès, il a pu avoir accès, se demander des propres droits, enfin des propres permissions avancées sur cet environnement de dev. Parce que quand vous faites ça, normalement, il y a un mail qui est envoyé pour vous demander d'activer ces permissions. Mais en fait, il s'avère que en lisant le code source, il a compris qu'il pouvait avoir accès au contenu des mails envoyés via une interface cachée. Donc du coup, il a pu revoir le fameux magic link qui était censé être envoyé à un mail uniquement d'une personne de Stack Overflow. Donc en fait, le gars... Il a fait sa vie jusqu'à monter tout un tas de privilèges et puis comprendre vraiment comment le truc fonctionnait jusqu'à se dire bon bah ça y est je vais faire en gros la même chose en prod, et puis il a réussi, mais il s'est fait cramer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fait tout ça en à peu près 15 jours. Que pendant 15 jours, du coup, le gars il profitait donc de de cet environnement de dev et que c'est au bout de 15 jours qu'il a eu ses accès hyper hyper avancés et en fait on voit à quel point même des structures comme Stack Overflow où il y a je sais pas combien d'ingénieurs peuvent être finalement exposés et vulnérables. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont compris tout ça. Déjà pour éviter que ça soit les utilisateurs qui les avertissent du problème, ils ont mis en place tout un tas de dashboards et de monitoring sur l'escalade de privilèges. Ils sont aperçus en faisant, du coup ça a entraîné un espèce d'audit de tout ce qu'ils font, donc ils sont aperçus qu'il y avait énormément de secrets qui étaient en clair dans les builds et donc du coup dans le fameux zip que le gars a récupéré, hein, c'est ça qu'il faut lire entre les lignes, du coup qui permettait d'avoir certains accès. Ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de 2FA sur les différents systèmes d'attente. Forcément, comme je disais, leur environnement de dev était exposé. Donc, un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va le mettre en privé derrière un VPN. Ils ont changé leur VPN. Ils ont décidé de ne plus mettre de login mot de passe, mais de privilégier des SSO et des accès par clé. Ils ont renforcé la formation des employés sur le phishing. Et ils ont forcé le reset des passwords de l'intégralité des employés chez eux. Et le dernier petit truc, et aussi, ils ont refait une passe sur l'intégralité de tout ce qui est publié publiquement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lien vers des ressources qui comme là ont permis de se faire choper. Et ce qui est intéressant, c'est moi je vous invite vraiment à relire tout ça, parce que finalement ils font les différentes mesures qui sont mises en place, c'est finalement des bonnes pratiques. On sait tous que souvent dans l'urgence, il y a certaines bonnes pratiques qu'on met un petit peu sous le tapis pour avancer. Là, ça a eu quand même des effets assez graves avec quelqu'un qui s'est retrouvé avec des accès vraiment très très hauts. Et surtout, même s'ils ont fait un super travail sur la timeline pour bien comprendre comment le gars a compris tout ce qu'il a fait et obtenu, en fait, il n'y a aucune garantie que ça n'a pas débordé avec d'autres accès, avec d'autres utilisateurs sur lesquels il a été peut-être moins ambitieux sur l'escalade de privilèges, etc. Et donc, du coup, faut faire hyper attention. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Je t'ai vu un peu sourire, Damien. Est-ce que tu veux rebondir sur ce genre de sujet?
Ah, tu m'as spoil la fin de l'histoire. Non, pour le coup, déjà, je trouve ça cool, ce genre de... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un post-mortem, parce que du coup, c'est quand même un peu plus complet, un peu plus public sur ces choses-là, mais je trouve ça toujours cool, en fait, de pouvoir voir... déjà, c'est rassurant de se dire que des loupés, il y en a chez tout le monde, quoi. C'est pas que dans les petites entreprises, des trucs comme ça, donc c'est un peu rassurant que tout le monde reste humain derrière tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et ça montre qu'au final, avec pas grand-chose, on peut construire petit à petit, assez même rapidement, pas mal de choses. On peut profiter de pas mal de petites failles. Ce qui est assez inquiétant dans l'histoire, et ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant ce qui s'est passé. Et ce qui est, je pense, même pour eux, le plus inquiétant, au-delà pour eux et pour leur image de marque, c'est que c'est un utilisateur qui est prévenu. C'est un peu comme le monitoring, quoi. Quand un utilisateur vient me voir pour dire « Au fait, c'est normal que le service ne fonctionne plus », on a toujours l'air un peu con, en fait. Donc, pour le coup... C'est un peu le truc qui est le plus embêtant, si j'ose dire, dans l'histoire. Après, des failles, il y en a tout le temps. Il y en aura toujours. Il faut juste arriver à les trouver avant les méchants, on va dire. Et là-dessus, des approches comme faire du bug bounty ou des choses comme ça peuvent aider. Du coup, avoir des offres, si jamais vous trouvez un hacker trouve une faille, qui puisse être rémunéré pour la faille et pas avoir moins de temps peut-être à exploiter. Donc, pour le coup, ces choses-là peuvent aider, mais... Maintenant, c'est assez intéressant comme histoire. Du coup, là, tu l'as assez bien raconté. mais je pense que c'est intéressant à lire parce qu'il doit pas avoir mal de petites choses, de petits détails assez intéressants là-dessus dans cette histoire, même si maintenant on connaît la fin, mais bon, ça n'empêche pas le chemin d'être intéressant, si j'ose dire.
C'est vraiment ça que je souhaitais mettre en avant, c'est que il y a tout un tas de choses qu'ils ont fait pour se protéger à l'avenir, pour se protéger de ça à l'avenir et de bonnes pratiques, et ça c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir qu'on part d'un mec qui au début sondait tout un tas d'URL en espérant trouver quelque chose, j'ai full accès sur l'intégralité de la plateforme et en 15 jours, quoi. Et c'est l'article ne va pas non plus trop loin dans les détails techniques. Je pense que c'est volontaire, hein, pour tout un tas de raisons. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment hyper intéressant de lire tout le déroulé et de voir que, enfin, déjà, je sais même pas, ça vous est déjà arrivé, vous, de devoir remonter ce genre de petites pistes où vous savez que vous avez pas été forcément hacké, mais en tout cas qu'il y a eu un truc suspect, de devoir remonter tout un tas de logs hyper hétérogènes pour remonter la trace de quelqu'un ou d'une mauvaise action.
Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois pour le coup. Je travaille chez un infogéreur, donc forcément sur le lot, il y a toujours des moments où il y a des choses un peu suspectes, où il faut lever le doute, quoi, savoir s'il y a quelque chose qui a été compromis ou pas déjà. C'est la première chose. Et en vrai, c'est un exercice qui est super intéressant pour le coup. C'est très intéressant, en fait, d'analyser les logs, d'essayer de comprendre ce que la personne a fait. Et des fois, il y a des logs qui peuvent nous paraître banals, et après, on se dit « Ah, mais attends, en fait, ça, il faisait ça pour cette raison. » Parce que du coup, il y a toute une première phase dans les attaques comme ça, qui est une phase de reconnaissance, on va dire, où la personne va essayer de choper le plus d'informations, le plus de choses, le plus de pistes. Et dans cette phase-là, en fait, quand vous la voyez de l'autre côté, elle est très intéressante, parce que il y a des choses que vous n'allez pas interpréter comme dangereux, mais qui, en fait, montrent que la personne est en train de faire quelque chose de spécifique et qui ne le fait pas pour n'importe quoi. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant, qui est très difficile aussi. On ne va pas se le cacher. Moi, généralement, j'ai eu la chance de le faire avec des personnes qui avaient pas mal d'expérience là-dedans, qui étaient un peu dédiées à faire ça. Donc, elles guidaient un peu. Mais pour le coup, non, c'est un exercice qui est très intéressant, mais assez complexe, qui est chronophage. Faut pas croire que ça se fait en 2 secondes, aller les logs, ça. Même si aujourd'hui, quand on a de la chance, on a tout qui est centralisé dans des beaux dashboards et tout, c'est pas quelque chose qui prend 5 minutes, ça prend du temps d'essayer de comprendre, voir ce qui était critique, pas critique. Et après, il faut vraiment tirer des leçons, donc savoir où on peut empêcher la personne de faire des choses. Pourquoi on a été mauvais aussi, savoir si on a pu la détecter ou pas. Et aussi comprendre est-ce que notre chiffrement, etc., a permis d'empêcher la personne d'avoir accès à des choses trop sensibles aussi. Parce qu'après, y a différents niveaux de criticité. Je vais pas y arriver. Mais pour le coup, ça dépend, on va dire, de votre plateforme. Mais après, si une personne arrive à se loguer, que vous avez identifié assez tôt qu'elle n'a pas été plus loin, c'est déjà moins grave que si une personne a effectivement arrivé à choper des données. Mais d'ailleurs, je me permets de déborder un peu. Un petit conseil. Moi, des fois, ça m'est arrivé de faire des exercices, que ce soit sur RootMe ou sur comment il s'appelle, c'est Hack in the Box, je crois. Hack the Box, qui sont des sites très sympas pour apprendre à faire des choses assez basiques au final dans le hacking. Mais ça vous montre bien l'autre côté du décor. Et en réalité, c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses qui paraissent anodines quand on fait d'admin 6, qui de l'autre côté nous aident beaucoup, en fait, ou sont des facilitateurs. Donc, des fois, c'est intéressant de se mettre un peu dans la peau de l'autre personne pour voir un peu sa vision des choses.
Là, il y avait quand même un truc intéressant aussi dans l'article, c'est que ils avaient les logs, en fait. C'était quand même une des forces, parce que c'est pas forcément obligatoire. Des fois, il n'y a même pas les logs, donc pour faire de forensic, c'est pas gagné. Et puis moi, ce qui m'a, donc je l'ai lu peut-être un petit peu rapidement, mais ils sont pas passés loin de la cata. Est-ce que l'attaquant passe sur la prod? Ce qui a bloqué, c'est quand même le 2FA, donc deuxième facteur d'authentification, quand même plutôt une bonne pratique pour le coup. Et puis on voit aussi la dangerosité de mettre des secrets une plateforme comme dans ces sources, en fait, parce que même si c'est des sources qui sont censées être privées, si par malchance elles leak, après c'est vite la catastrophe. Donc ça, c'est vrai que c'est une mauvaise pratique, et en plus des fois ça reste un petit peu enfoui, c'est-à-dire que même si sur la dernière version il n'y a plus le secret, des fois il peut se retrouver dans l'historique et il y a des outils pour ressortir ça. Et donc voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire vraiment attention, même si on est sur un repo privé, de ne pas mettre de secret dans les sources.
Je vais, euh, je, Je vais aller dans ton sens, mais pas tout à fait. En fait, ne pas mettre de secret en clair. Si vous voulez mettre des secrets, chiffrez-les, parce que c'est bien aussi de mettre des secrets dans Git si on fait du GitOps. Par contre, il faut les chiffrer, parce que si on les chiffre pas, en effet, on les voit dans l'historique ou on les voit dans le code. Et si on les voit dans l'historique, il n'y a pas 36 choix, hein. Il faut révoquer la clé et puis la changer. Nous, ça nous est arrivé sur Frogit il y a 2 semaines. J'ai mon alternant qui a poussé du code non chiffré. Je lui ai dit, mais t'as vu ce que t'as fait là? C'est pas bien. Il faut chiffrer ton vault tout le temps. Et du coup, pour lui apprendre qu'il fallait chiffrer ça, je lui ai dit, tu vas me révoquer la clé, puis tu vas la refaire et tu vas rechiffrer. Et je pense qu'il ne le refera plus parce que ça lui a pris pas mal de temps, mine de rien.
Et là, c'est la bonne occasion de lui mettre des pré-commits qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de secret dans son commit.
C'est exactement ce qu'il va faire parce que je lui ai mis une nouvelle carte en lui disant, tu vas faire des pré-hooks et tu vas vérifier que tous nos fichiers .vault, .quelque chose, ils soient bien chiffrés. Donc il va travailler là-dessus la prochaine fois.
Pour le coup, non, il y a plein de bonnes pratiques effectivement sur la gestion des secrets, mais c'est pas quelque chose qui est simple, surtout quand on a une grosse organisation. Hein. Là, une organisation comme ça, il faut imaginer qu'il y a quand même énormément de builds, de choses qui se font d'équipes différentes. Donc ça peut paraître trivial, mais c'est très vite fait d'avoir un projet dans un coin qui a leak un secret, puis un qui a leak un autre dans un autre coin, qui sont potentiellement individuellement pas graves, pas ultra graves ou très limités, mais potentiellement l'un et l'autre peuvent se combiner et faire accéder à quand même beaucoup de choses. Donc, faut vraiment faire attention. Comme disait Christophe, chiffrement, maîtriser les secrets, déjà savoir où ils sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés. Essayez de faire des secrets délimités. Si jamais vous avez un doute sur un environnement, comme ça, vous pouvez révoquer la clé de l'environnement donné, et pas toutes les clés. Parce qu'on sait très bien que s'il faut redoubler, toutes les clés, vous ne savez pas où elles sont stockées, vous ne le ferez pas parce que ça va potentiellement induire beaucoup de problèmes. Et dernier truc là-dessus, c'est si vous pouvez... Essayez de mettre des secrets dynamiques. Il y a plein de services qui vous permettent de régénérer automatiquement vos secrets régulièrement. Ça, c'est la solution quand même ultime qui vous empêchera d'avoir trop de soucis comme là.
J'en profite juste pour faire peut-être un petit lien avec un ancien podcast où je parlais d'une émission de If is Then Dev, où pareil, un problème de sécurité qui avait eu lieu. Et là, en l'occurrence, c'est l'utilisateur qui avait poussé ses clés sur GitHub. Dans son bash RC ou quelque chose comme ça. Et voilà, savoir que ce genre de mauvaise manip, il y a des robots qui regardent en permanence et il s'est fait toper ses credentials super vite, quoi. Je crois que ça prend quelques minutes. Même si aujourd'hui, quand même, AWS, par exemple, a des systèmes pour essayer d'aller plus vite et contrer ce genre de trucs, il faut, voilà, c'est un truc, il faut vraiment faire attention.
Après, sur AWS, il y a beaucoup d'outils pour la sécurité aussi. Hein. C'est, à mon avis, aujourd'hui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est le cloud qui offre le plus d'outils de sécurité. Même au niveau des choses comme IAM, etc., on peut se passer des secrets pour beaucoup de choses. Moi, je sais que là, quand je donne des cours aux étudiants, je leur explique que sur AWS, la bonne pratique est de même pas utiliser de secrets. C'est de passer directement par des rôles, des choses attachées qui sont gérées par IAM, donc directement par AWS pour pas avoir d'ennui, quoi. Mais là-dessus, il y a plein d'outils que je vous invite à découvrir.
Oui, de toute façon, globalement, les cloud providers en termes de sécurité sont quand même à l'état de l'art, quoi. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, effectivement. On peut ne pas les aimer, mais ils sont très bons en sécurité.
Ah, clairement, les gros cloud providers là-dessus, c'est le point honnêtement qui me gêne sur les alternatives pour l'instant, qui me bloque un peu.
Mais justement, parlant d'outils, on va se diriger vers la dernière news du podcast, puisque René va nous parler d'outils. Donc je te laisse la parole, René.
Oui, alors quelques petits outils, une news assez rapide. Je pense que la plupart des auditeurs connaissent l'outil GQ qui permet de faire du parsing de fichiers JSON en lançant à partir de Bash. Donc, je rappelle juste que pour parser ce genre de fichiers, c'est mieux d'utiliser un parseur plutôt que faire des greppes sauvages et des hawks. Ça c'est pas une très bonne pratique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu des déclinaisons un petit peu de cet outil pour un peu tous les formats. Donc, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps pour le XML. Donc, avant, on avait un outil qui s'appelait XML Starlet, mais qui était un peu daté et pas forcément trivial à utiliser. Donc là, apparemment, il y a un nouvel outil. J'avoue que j'ai pas testé, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de regarder si vous avez besoin de parser du XML. Et en fait, il y a d'autres déclinaisons. Il y a une déclinaison pour du YAML, il y a une déclinaison aussi pour du HTML. Donc voilà, on va dire, des outils très pratiques pour des fois récupérer une information dans un fichier de ce type-là, de manière propre et depuis son bash.
Ça va faire encore plus de jouets pour faire des one-liners de la mort, là.
Ouais, vive le YQ pour parser du YAML.
Ouais, je pense que celui-là est pas mal, ouais.
Ah, pour le coup, non, je vais les essayer. En vrai, je pense que je vais me les installer. Je vais même les mettre dans ma recette Ansible pour installer mon poste, comme ça. Je serai sûr de ne pas les oublier.
C'est vrai que c'est pas mal. Bah, je ne sais pas si on a grand-chose à dire, à part vous partager ça, mais... C'est vrai que c'est plutôt des outils qui sont vraiment bien. Moi, je sais que j'utilise JQ parce que voilà, hein, JSON, il y en a de partout. Et les autres, ça peut être vraiment pas mal.
Bah là, voilà, on a la palette complète et voilà, on mettra les liens, je pense, vers les sources de chacun de ces outils dans les notes.
Exactement. On mettra le lien. Le lien est en description. De toute façon, vous pouvez aller le voir. Écoutez, merci à vous trois de votre compagnie et de toutes ces petites news. Toi, cher auditeur ou auditrice qui nous écoute, si tu veux venir discuter de tous ces actus ou partager d'autres actus avec nous, tu peux nous rejoindre sur le forum des Compagnons du DevOps. Et c'est une communauté où on discute ensemble. Et tous les podcasteurs ici présents font partie de la communauté et elle est assez active, de plus en plus en tout cas. Moi, je vous dis à très bientôt et je vais vous laisser à chacun le mot de la fin. Donc, on va commencer par Erwan.
Comme d'hab, c'était intéressant. Il a appris plein de trucs, donc c'est cool. Et je finirai par Bobine.
Alors, pour le coup, non, c'était intéressant. On a pu voir, comme toujours, des petites actualités assez cool. Et le petit mot de la fin, ça va être faites comme Stack Overflow. N'ayez pas peur d'assumer que parfois, on fait des erreurs. Le tout, c'est d'en retirer quelque chose, d'apprendre et de s'améliorer. Voilà. Bonne journée, bonne nuit ou autre, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
J'espère que l'émission sera intéressante et qu'on vous retrouvera au prochain podcast. Voilà, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.